L'Aréopage, l'émission littéraire de Nathalie Bouly.
Son expérience de vie se caractérise par une forme de nomadisme issu de voyages. Il a écrit, dessiné, au rythme de ses paysages intérieurs. Je viens de vous lire la très courte quatrième de couverture de Nomade, un livre très particulier, un livre où se mêlent nouvelles, peintures et silhouettes de mode. Comment ces représentations artistiques vont se croiser, se comprendre et se répondre? C'est ce que va nous expliquer son auteur aujourd'hui dans Aéropage sur Radio FM+. Bonjour Daniel Maigron.
Bonjour Nathalie.
Daniel Maigron, d'abord quelques mots sur vous. Vous êtes né dans les années 60 et votre première activité professionnelle fut en tant que styliste enfant chez Cacharel à Paris.
C'est exact.
Mais Daniel, entre la naissance en 60 et l'activité professionnelle, il y a l'enfance. Est-ce que l'enfant Daniel Maigron était déjà créatif?
C'est-à-dire que l'enfant Daniel Maigron aimait beaucoup se déguiser. Il empruntait les robes de sa sœur, les talons aiguilles, et avait beaucoup. Il arrivait à jongler, à mélanger les matières, etc. Toujours très créatif, mais au niveau des vêtements uniquement.
Vous dessinez pas encore?
J'ai dessiné. Par la suite, mais j'ai vécu une première rupture au niveau de ce qui était ce qui m'envahissait en grandissant.
D'accord. Cette envie de se costumer, par exemple, c'était vous vous mettiez en scène aussi comme un peu comme
mais
du
j'avais
théâtre.
J'avais le désir d'abord concernant. À l'époque, ma sexualité, je n'avais pas parce que j'étais trop enfant, mais j'avais le désir, quelque part, de comprendre qu'est-ce que c'était être une femme. Qu'est-ce que c'était porter des vêtements de femme. Mais en mettant de côté toute orientation appropriée à ce que je pouvais ressentir moi-même.
Comment réagissait votre famille?
Alors, je suis issu d'une famille de paysans. Mes frères sont paysans aussi. Et donc, à l'époque, par exemple, mon père avait, il y avait un chantier pour tailler des, comme on appelait ça en patois, des pourrettes. Et il avait une vingtaine de personnes qui travaillaient pour lui. Et donc, j'allais voir ces dames toutes habillées, maquillées, etc. Je n'ai jamais eu de la part de mes parents une réflexion, de quoi qu'il en soit, de mon devenir, vu la situation que je provoquais moi-même en moi-même.
Et les textes, puisque le livre dont on va parler mélange évidemment justement ces dessins de mode qui sont issus aussi peut-être de votre envie de
Mais c'est-à-dire, moi, c'est vrai que je ne veux pas non plus trop parler de mon enfance parce que j'ai quand même j'ai l'impression d'avoir, beaucoup bataillé dans ma vie. Et la rupture, c'est au niveau du dessin, c'est quand j'ai rencontré mon ex-femme, une chinoise de Hong Kong. Je l'ai rencontrée dans une école d'art. Et ça a été, à ce moment-là, je faisais beaucoup de choses. Mais je jetais beaucoup. Et elle avait récupéré. Et puis les choses se sont dessinées comme ça. Je suis parti à Hong Kong, j'ai ouvert un petit atelier de couture. Et on a beaucoup travaillé là-bas. J'ai commencé à peindre là-bas. C'est-à-dire que ce déracinement a été très fructueux. C'est-à-dire que j'avais besoin de me couper, quelque part, des empreintes familiales.
De justement de cette enfance.
Et de cette enfance aussi. Et donc. Ça a été très constructif. Bien sûr, j'ai commencé avec balbutiement à travailler la peinture, mais ce n'était pas extraordinaire. Ça n'avait pas la patte d'aujourd'hui.
Et le verbe, le mot, alors, parce que bon, il y a une partie, vous le dites après, on va en parler, que ça fait très peu de temps, en définitive, que vous avez écrit tout ce que vous avez
écrit. J'ai écrit récemment, ça fait quand même quelques années, ça fait 3-4 ans.
Enfant, vous n'étiez pas justement à écrire?
Non, pas du tout. Ce qui m'intéressait, c'était la mode. Et donc, par contre, la peinture, quand j'ai vu arriver le Covid, j'ai senti comme une rupture supplémentaire. Donc, ça a complètement galvanisé ma création. Et j'ai changé encore. Parce que quand j'étais à Hong Kong, je faisais de la peinture abstraite.
Ah, d'accord.
Donc, orientée plutôt vers la Chine. Parce que on est les survivants d'une culture, parce qu'on vit en permanence, on respire la culture, on respire les gens, on respire tout. Tout se dessine, tout prend forme. La vie à Hong Kong, c'est une activité absolument, une fourmilière absolument incroyable d'activité. Donc, c'est ça qui fait la richesse, et c'est ça qui a fait ma richesse. C'est ce qui m'a construit jusqu'à aujourd'hui, et j'en tire encore des ressources jusqu'à ce matin. Parce que ce matin, j'ai fait une esquisse aussi. Mais l'écriture, ben, ça vient par le travail. Ça a commencé par des petites choses, et puis on se grandit tous les jours. C'est ce que je veux faire, j'aimerais bien faire passer, c'est cette aptitude à pouvoir se grandir en permanence. Parce qu'on a l'impression qu'aujourd'hui, les rues sont désertées d'aptitude. Ce n'est pas dire qu'on va aller vers quelque part par de la rigueur, par de l'autorité. Non, ce n'est pas ça du tout. On n'obtient rien par la rigueur et rien par l'autorité, mais une aptitude.
Mmh. Ces années asiatiques, elles vous ont apporté toute cette connaissance de ce monde-là au niveau du travail. Au niveau philosophique, spirituel aussi, ça vous a apporté quelque chose ?
Ben, c'est-à-dire que c'est un tout quand vous êtes créateur de mode et que vous avez... Je travaillais avec le Japon, je travaillais avec Singapour, je travaillais avec des tas de villes comme ça. Bon, il y a plus ou moins en quantité par rapport aux villes.
Vous êtes resté longtemps quand même, Daniel.
11 ans. Mais quand vous êtes en aptitude de création... Mais vous êtes en conformité pour recevoir tous les éléments qui sont autour de vous. C'est pas spirituel. C'est vous êtes en aptitude. Mmh. Et si vous êtes construit pour être un réceptacle. Enfin, je sais pas si je trouve le bon mot, mais c'est comme ça que j'ai pu au niveau de ma vie, au niveau de... C'est vrai qu'il y avait une adhérence au travail qui était énorme, on travaillait tout le temps, le dimanche on se reposait, mais c'est vrai qu'on était un peu broyé par cet environnement du travail. Donc il faut trouver la respiration, quoi qu'il en soit. On n'a pas le choix.
Et puis vous rentrez en Europe, à Saint-Geniez-de-Malgoire, et vous ouvrez, et vous avez tenu une boutique atelier-galerie pendant plus de 10 ans. C'est quoi le concept d'une boutique atelier-galerie ? Il y avait quoi dedans ?
C'est une boutique qui faisait quand même 75 mètres carrés, qui n'était pas petite. Mm-hmm. Donc tous les 2 mois, je recevais des nouvelles collections. Et c'est un village quand même de 3000 habitants. Et des collections de prêt-à-porter haut de gamme, mais qui n'étaient pas non plus très chères, mais pas à la portée de tout le monde. Et dans cet atelier, donc, j'avais donc, mon atelier de travail au niveau de la peinture. Et j'ai tenu 10 ans jusqu'à ma retraite. Et je suis à la retraite aujourd'hui.
Ça vous a plu, cette boutique à tenir ?
C'était très intéressant parce que c'était... Vous savez, quand je suis rentré de Hong Kong, quelque part, il ne faut pas croire que tout était rose, on va dire. Hein. Donc, j'étais très affaibli. Et c'était le choc culturel qui m'avait un peu anéanti. Et donc, ça m'a permis de me reconstruire.
Vous parlez des origines paysannes de vos parents. C'était quelle région ? C'était vers ici
aussi ? C'était à côté de Nîmes.
Hein, oui, c'est là.
Entre Nîmes et Alès.
Vous êtes né dans ce coin-là ?
Moi, j'ai fait tout quand j'étais jeune, au niveau du travail de la terre.
Dans cette région. J'aimerais parler aussi d'une de vos œuvres, parce que quand on va chercher quelque chose sur vous, ben, on tombe sur un article du Midi Libre et puis sur, bien sûr, la présentation du livre dont on va parler après la première pause musicale. Mais on tombe sur une de vos œuvres, c'est un retable de la Passion du Christ qui a été exposé à la cathédrale Saint-Castor et qui est maintenant la propriété de l'ancien directeur de la cathédrale.
Tout à fait.
Y a une veine religieuse dans ce que vous faites. D'ailleurs, dans Nomades, on commence par un Christ. C'est important, la religion, dans la veuve créativité ?
Pour moi, c'est primordial. Mais aujourd'hui, comment dire ? Moi, chez moi... Je dis chez moi, c'est Versailles, très simplement, on va dire. Mais par contre, il y a tout ce qu'il faut. Il y a le Bouddha, il y a le Christ, etc. Il y a la Sainte Vierge. C'est pas que je vénère quoi que ce soit. Mais moi, j'ai besoin de parler à quelqu'un. J'ai besoin d'interroger le temps en permanence. J'ai besoin de crier au temps en permanence aussi. Donc, je suis comblé. J'ai aussi mon prie-Dieu. Avant chaque repas, je fais la prière. Je dis pas grand-chose, mais je fais la prière.
Mais vous vous dites croyant, vous dites chrétien, par exemple ?
Je me dis chrétien, oui. Mm. Parce que le bouddhisme, pourquoi pas ? C'est sûr, mais je me dis chrétien. Parce que c'est le christianisme qui m'a construit quand j'ai commencé à aller me recueillir à la cathédrale Saint-Castor de Nîmes. C'est lui qui m'a construit. C'est pas les gens qui m'ont construit autour, bien sûr. Je vais pas parler des gens. Mais quand j'ai commencé à travailler sur le retable, j'ai parcouru du pinceau la symbolique du christianisme. Et ça, c'est très important, ça.
Daniel, vous vous définissez vous-même dans un petit texte, « Je suis peintre de vocation ». Qu'est-ce que c'est être peintre de vocation ? D'ailleurs, vous m'avez dit en préparant l'émission que c'était plutôt presque peintre à vocation que de vocation.
Alors, j'ai dit deux, oui, je sais pas. Moi, ça me dérange un peu, vocation, quelque part.
Ouais.
Avoir des vocations de quoi aujourd'hui ? Moi, j'ai l'impression d'être... Je sais bien faire la cuisine, par exemple.
Et pourtant, vous n'avez pas vocation d'être un cuisinier. Donc, peintre de vocation.
Oui,
on sort du fou rire. Ah non, il ne s'arrête pas. Alors là, si c'est 50 minutes à rire, on va mettre Maria Callas maintenant.
Non, mais je veux dire, moi je suis un autodidacte, je me suis tellement interrogée sur moi-même, je ne correspondais à aucune case de l'éducation que l'on propose en général. Que ce soit au niveau éducation, que ce soit au niveau, à tous les niveaux, quoi. Mm. Et puis, c'est vrai, vous savez, chez moi, il n'y avait pas de livre, il n'y avait pas de disque, il n'y avait rien de tout ça, hein. Donc, je vais vous donner un exemple. Jacqueline Dupré, qui est, je crois, la femme de Barenboim. Quand j'étais à Paris, j'avais pas de disque à Paris non plus. Donc j'ai écouté à la radio. J'avais une petite radio. Il faut pas croire que tout était. Et j'ai découvert Jacqueline Dupré. Et en arrivant en France, par hasard, j'ai acheté le disque de Jacqueline Dupré. Ça a mis 30 ans à germer dans ma tête. Vous vous rendez compte ?
Mmh. Ce qui m'étonne, c'est comment, dans un milieu paysan, votre père, il y avait quand même des employés, donc des manœuvres, oui. Donc c'était pas non plus...
On manquait de rien.
Voilà.
Je m'habillais correctement, je manquais de rien. J'ai pas me plaindre.
En fille, j'ai compris.
Merci.
Mais
j'ai gardé les chaussures.
D'où vient dans ce milieu cette fantaisie et puis cet appétit de musique classique, de littérature.
Mais écoutez, je vais vous raconter une autre chose. On travaillait avec un groupe lyonnais, donc on emballait des raisins de table, etc., etc., des légumes qu'on envoyait à Lyon. Donc on triait les haricots là, en mois de juillet, on n'avait pas de vacances. Et je vais dans la salle à manger, j'ouvre la télévision, Maria Callas à la télévision. Je me suis camouflé sous la nappe de la table de la salle là où on mangeait tous les jours, parce qu'il y avait deux salles à manger, et j'ai écouté Maria Callas. Mais ça marche, il ne faut pas grand-chose pour éveiller les gens. On est endormi aujourd'hui, on est pollué, on nous assomme. Qu'est-ce que c'est ce monde ? On n'en peut plus, quoi.
Et chez vous, vous vous sentez protégé dans votre univers ? C'est un univers qui
vous
protège ?
Moi, quand je suis chez moi, même si j'ai l'impression d'être envahi par, quelque part, des énergies que je n'arrive pas à accepter parce qu'elles sont en contradiction avec moi, je me dis, c'est pas grave, il faut tout gérer. J'essaye, je fais des thérapies, j'essaye, mais je suis bien chez moi.
Mm-hmm. Ça vous protège, vous sentez, enfin, ça fait deux fois qu'on en parle, mais que le monde extérieur est une agression pour vous.
Mais jamais comme ça. C'est-à-dire que plus j'ai l'impression d'avancer dans ma création et dans ma créativité au niveau des mots et des couleurs, etc. Et quand je sors, à la campagne, c'est pas grave, hein. On est à la campagne. Mais en ville, quand je vois l'état des gens aujourd'hui dans les villes, mais je suis épouvanté. Épouvanté. Moi, vous savez, je suis allé commander un ouvrage que j'allais récupérer donc, la semaine dernière. J'ai l'impression de me prendre des coups de pinceau à travers la gueule chaque fois que je croise quelqu'un. Mais quand j'arrive à ma maison, les bagages ils sont un peu lourds. Hein. Alors si je ne travaille pas, si je n'écris pas, si je ne peins pas, qu'est-ce que je fais ?
C'était quoi le livre que vous avez été commandé ?
C'est un livre de Thomas Segovia. Alors d'accord. L'histoire était très étrange parce qu'un jour, j'étais allongé dans ma chambre. Il y a Segovia qui est passé au-dessus de ma tête. Je ne sais pas comment. Je n'ai pas ouvert la fenêtre pourtant. Et Segovia, je regarde, ville espagnole, au 18e siècle, prospère pour le textile. Alors ça m'a tout de suite happé, textile, ça me parle. Et puis, je vois donc... Thomas Segovia. Je fais des recherches, ça m'a interpellé. Thomas Segovia. Et je trouve sur... le titre du livre, Les possibilités du nomadisme. Donc je me suis dit, c'est quand même impertinent, des coïncidences comme ça. Donc je suis allé le commander à la librairie Les Lettres de Mamoulin, où d'ailleurs sont déposés mes ouvrages aux Lettres de Mamoulin.
D'accord, qui est À Nîmes.
Boulevard Victor Hugo.
Bon, on le répétera à la fin. Je vous propose de marquer notre première pause musicale et vous avez choisi pour nous La Mama Morta de Maria Callas. On l'écoute et puis vous nous dites après pourquoi vous avez choisi ce titre. Vous êtes toujours sur Radio FM+, et vous venez d'écouter Maria Callas dans La Mama Morta, dans l'émission Aréopage avec Daniel Mingron. Daniel, pourquoi ce choix de Maria Callas? On le comprend, hein, parce qu'on était tous sous l'émotion.
Tout simplement, c'est le passage du final de mon premier défilé en con, c'est-à-dire La Mariée.
D'accord. On comprend l'émotion qu'il y a. Enfin, on en a parlé il y a un mois et demi quand on s'était appelé la première fois, où je vous disais que moi, quand j'écoutais Sola Perduta et Innamorata dans, je crois que c'est Madame Butterfly, avec la voix de Callas, c'était une explosion d'émotions fortes.
Elle m'a beaucoup inspiré pour mon travail, Maria Callas, parce que j'ai une faculté que quelque part j'arrive c'est comme si chaque chimie humaine c'était de la matière vivante et ça allait de la matière vivante. Donc, quels que soient les personnages ou les gens, j'arrive à m'assimiler à ce qu'ils sont. Alors, ce sont pour moi des protecteurs.
Mais il y a de ça chez Maria Callas. Daniel, on va parler de Nomades maintenant, puisqu'on est là aussi pour ça. Et dans le petit texte que j'ai lu, il y a été écrit au rythme de ces paysages intérieurs. Sans être intrusive et sans vouloir vous demander de vous dévoiler plus qu'il n'en est besoin. C'est quoi ces paysages intérieurs auxquels vous faites
Ben, c'est-à-dire, c'est difficile à expliquer parce que quand je suis en train de produire quoi que ce soit de l'écriture avec de l'encre noire ou de la peinture avec différents ingrédients, ça peut être de l'acrylique ou surtout de la peinture à l'huile et des pastels, puisque la base de mon travail c'est une base de peinture à l'huile.
C'est une question que je voulais vous poser justement, on va en revenir un peu plus longuement.
Et c'est des pastels aussi. Donc je veux dire, c'est, il faut se donner quand on travaille. Il faut, c'est comme se vomir intérieurement.
Dans ce livre, on trouve déjà une dizaine de textes. Peut-être pour faire comprendre votre univers aux auditeurs, il y en a un que vous souhaiteriez lire plus que les autres, Daniel ? Je vais vous laisser le choix. Non, mais dans le livre.
Je vais le regarder. Qu'il ne soit pas trop long, quand même, je le souhaite.
Oui, bah, celui qui ouvre, par exemple, il est bien, hein, il est beau. Hein. Je voudrais être enterré 6 pieds sous terre.
Oui, ça fait un peu triste, ça, non ?
Oui, mais bon.
On n'a pas envie d'être un haricot. Hein. Je sais pas.
Celui sur les gommes aussi, je voudrais
parler. Moi, c'était les gommes, par contre, qui m'ont
dit.
Il est où ?
Là, tenez.
Je l'ai. Bon. Alors, je peux commencer ?
Allez-y.
Je voudrais parler du trait à l'encre grise, de l'écriture et de la peinture. Peut-on y voir l'incarnation de la lumière en y ressuscitant à dessein la vie ? Une gomme, providentielle, outil indispensable, approprié selon chaque tempérament de l'artiste, efface d'un trait et construisant d'un trait une ébauche du dessin. Au commencement, si nous avions été une gomme à s'y frotter contre le papier comme un jeu de hasard de notre époque, que serait-ce le prix ? Temps suspendu d'une gomme au-dessus de nos têtes, au va-et-vient du temps qui glisse sur la feuille imprimant trait pour trait successivement et constituant en coup d'éclat l'épopée enchantée de la vie de l'ombre et de la lumière. Quelle est venue la gomme insolente en liberté sur une feuille folle, étrécissant les lignes conductrices de la forme de l'esquisse et pavoisant avec conviction les suites discontinues des traits pour sa réputation. Ne soyez donc pas offensés, flattez-vous aussi efficacement qu'une gomme et ne succombez pas dans une amère mansuétude de votre capacité à ne privilégier d'un geste de gomme que les lignes indispensables. Autre ligne que même une gomme sous très haute tension ne saurait maîtriser, celle que prennent les traits du chemin de fer. Au périple de nos multiples voyages, dans notre intime appétit de curiosité, la figure que forme au travers les traits, des échanges que nous pourrions envisager, si ce n'est de pouvoir nous échanger, avec complicité, nos gommes respectives.
Le texte est du 25 juin 2022, donc on retombe sur ce que vous nous avez dit, c'est-à-dire que ça a été écrit, vous avez commencé à écrire il y a 2 ans. Comment s'est fait le choix des textes ?
Mais pas, comment dire C'est-à-dire, comment je conçois mon écriture ?
Les 10 textes dedans, vous les avez choisis seuls, vous les avez choisis avec votre éditeur, comment ça s'est passé ?
On l'a choisi avec...
Parce que je pense qu'il y en avait d'autres, des textes.
On l'a choisi avec...
Christophe. Je vais en parler de pourquoi Christophe m'a aiguillé vers vous. Et puis, il y a ces 10 textes donc, et des peintures. On parlera des dessins en dernier. Les peintures, donc c'était la question que je voulais vous poser d'ailleurs. Où vous puisez votre inspiration dans vos voyages intérieurs Le premier, c'est un Christ.
Je suis soulagé quand j'ai quelque part, ne serait-ce qu'une idée. Et après, je développe. Par exemple, pour construire un poème, je note des mots au hasard. Il se trouve que tous les mots que j'ai notés sur une feuille, quand je les compose au niveau de la phrase, j'en ai toute utilité.
Ce dessin que vous avez, donc, je ne sais pas, vous me direz si vous préférez que, parce qu'il y a un podcast qui va être fait de l'émission, si vous préférez que je vous mette votre photo ou si vous préférez que je mette une de vos peintures.
Ah non, je préfère une peinture.
Voilà, parce que c'est vrai que...
Moi, ce que j'aime bien dans ma photo, c'est la pose.
C'est intéressant aussi que nos auditeurs voient votre, oui. votre peinture. Donc, il y a un trait... noir très défini, puis après vous l'habillez de couleur, vous faites d'abord le dessin.
D'abord je fais une esquisse au crayon gris, après je la travaille au feutre, et après je mets un aplat la peinture à l'huile pour essayer de mettre en lumière le dessin, et quand l'aplat à la peinture à l'huile est sec, je travaille avec le pastel.
Là par exemple sur ce soldat, ce chevalier,
Ça, cette peinture a une histoire parce que j'ai un journaliste qui est à la retraite, mais qui travaillait pour Affaires 3, qui m'avait convié donc, au festival du cheval à Colliès. Donc, il m'avait demandé à travailler sur le cheval et j'ai fait cette peinture pour ça, qui est parmi d'autres peintures.
Et ce cheval qui domine là aussi ? C'était dans la même expo ?
Oui, la même expo aussi. Ouais.
Après, le Christ, c'est celui du rétable ?
Non, pas du tout.
Et puis après, il y a ce. Je trouve très beau celui-là, de cette femme au long cils.
Oui, ça, c'est Marie-Madeleine.
Ouais. J'allais dire, c'est une vierge, mais bon, c'est pas
tout Marie-Madeleine. Ouais, c'est Marie-Madeleine. Bien sûr, au niveau de la pigmentation, j'ai voulu peindre que les endroits. J'avais envie que, dans sa nudité, qu'elle reste pure. Donc, je ne l'ai pas peinte complètement.
Moi j'aime beaucoup la peinture, Daniel, hein, et avec, alors peut-être pas dans celui-là, mais dans d'autres, notamment celui-là, quelque chose de très particulier qui est fondateur du cubisme. C'est-à-dire qu'il y a un côté, vous savez, quand Picasso peignait, on disait.
Quand il était influencé par Juanri.
Oui, voilà. Et toute la part, par exemple, dans les Demoiselles d'Avignon, vous avez le même visage. Pourquoi on a l'impression que les portraits sont complètement cassés ? Parce que Picasso explique qu'il voulait faire sur un seul personnage, en même temps, le voir de face. Et de profil, voilà. Et il y a ce travail-là dans votre peinture aussi.
Moi, je trouve que mon travail est complètement bercé par mon expérience en Asie. C'est-à-dire, pour moi, ce sont des silhouettes qui ont une influence de l'Asie. Alors, par contre, je ne pourrais pas vous parler d'un artiste particulier qui aurait pu faire la même chose que moi, mais...
Après, l'importance des couleurs...
Alors ça, je l'adore, ça.
C'est quoi, c'est Moïse ?
C'est l'ouverture de la fuite d'Égypte. Alors, parce que vous allez voir, dans les peintures en général, il y a beaucoup de blancheur, tandis que là, vous regardez, il y a beaucoup de couleurs.
Mais vous aimez la couleur. Enfin, moi, je suis très sensible aux couleurs beaucoup dans la peinture. Oui, c'est important.
Je ne porte que de la couleur, à part aujourd'hui.
Ouais. Avec une couleur qui est des fois très... très différencié, c'est-à-dire que vous n'hésitez pas le choc des couleurs. Vous aimez mettre de l'orange avec du bleu, enfin voilà.
J'aime que ça vive, mon travail est la puissance d'une vie. Mm-mm. Et c'est pas la vie, c'est d'une vie, c'est ma vie.
Et mélanger comme ça sur un support, ils sont grands comment d'ailleurs, je voulais vous demander à peu près
70 sur 50 ou 80, oui, c'est quand même assez grand. 80 sur 70.
C'est quand même assez grand.
Oui, c'est grand.
Donc, comment vous est venue l'envie de mélanger justement tous ces matériaux, c'est-à-dire le crayon, l'encre...
Par le hasard de Dieu.
Le hasard. Il est beau, le hasard de Dieu.
Ben oui, bien sûr.
Et puis, il y a la troisième partie de...
Mais si vous avez confiance, tout est gratuit.
Ah oui, 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 non, mais c'est sûr. La troisième partie du livre, c'est donc ces silhouettes de mode.
Elles sont superbes, je trouve aussi.
Elles sont toutes superbes, oui.
Je suis flatté par mon travail, mais quand je regarde les défilés de la Fashion Week, je me demande où est la mode.
Ça va pas en ce moment, la mode ?
Ah, je trouve que c'est épouvantable. Ouais.
Et d'où vient l'inspiration pour la mode, par exemple ?
Oh, c'est pareil, je sais pas. Je prends un papier, un crayon et je travaille.
Et ça vous arrive de le coudre ? Tiens, vous cousez ?
Non, je sais coudre. Ouais. Oui. J'ai appris. J'ai oublié. Quand j'en ai eu marre de travailler la terre, j'avais l'argent pour m'acheter des machines à coudre. J'ai investi la salle à manger de mes parents et j'ai commencé à coudre pour les gens du village.
Parce que les silhouettes, là, c'est très amusant. Il n'y a rien
qui a été réalisé.
C'est dommage. Hein.
C'est compliqué. Mmh.
C'est dommage. C'est très élégant. Mmh. Et en même temps, il y a des silhouettes très élégantes. Enfin, devant moi, là, j'en ai une avec une longue tenue, un tailleur, pantalon blanc très classe.
Vous
et
savez,
puis à côté, il y a du...
Ça, c'est l'expérience du Covid de un mois enfermé chez soi. Ça veut dire que j'ai fait 300 silhouettes de mode. Je travaillais le matin, je me lavais, je m'habillais, je me rasais, je me parfumais. Et de 8h du matin jusqu'à 7h, je travaillais. Parce qu'on ne pouvait pas sortir, donc il fallait travailler.
Bien sûr. C'est un regret de ne pas les avoir mis en tissu.
Écoutez, le problème ne se pose pas, j'ai 63 ans.
Bah, vous pouvez encore.
Je ne sais pas.
Bah, bien sûr, 63 ans, c'est jeune.
Je suis très abîmé par la vie, vous savez.
Oui, mais bon, il faut y croire jusqu'au bout. Mais c'est vrai que voilà, ce que je voulais mettre en avant aussi, c'était le côté théâtral des costumes. Depuis qu'on a échangé la première fois au téléphone, Daniel, vous me faites parvenir par WhatsApp des textes d'une grande force.
Oui, je lis, oui.
On s'était arrêté. Alors, est-ce que, à l'intérieur, vous allez réussir à trouver celui que vous vouliez lire.
J'y tiens d'ailleurs à le lire, parce que c'est l'avant-dernier.
J'espère juste que ça va nous permettre de, que vous allez y arriver sur votre téléphone.
Alors, je vais le mettre à
Parce qu'on s'était arrêté sur un premier texte qui s'appelait Les Mille.
Je l'ai.
Eh bien, allez. Donc, on va vous laisser parler sur ce texte qui est d'une grande force.
Est-ce que je peux le lire?
Ah ben, c'est à vous de lire. Je vous laisse le micro, Daniel.
Alors, je commence. L'écriture est une pierre sainte à l'angle de l'univers. Je ne suis pas une âme intérieure en reddition de ce que je ne suis pas à la réalité de ce que j'étais. La mort du verbe de l'âme de la parole ne consiste pas à la nouvelle ère des temps accomplis. Sournoisement, la contrariété proclamée au séjour des morts héberge le plus souvent l'infertilité de l'être enfoui au plus profond de notre âme défunte, volée au détriment du déploiement de la lumière divine. Le mot proclamé dans toutes les langues émancipe par sa construction enracinée à l'expression unie de toute sa richesse, une émotion qui émerge à chaque contraction en gestation, la compréhension unique de chaque langue. C'est la force vivante qui réalise le projet de notre érection buccale de sa divinité. Je proclame à tous les ennemis de la planète de vous retirer sur une île déserte pour parler une seule langue et de planter votre première plume sur le sable d'un encrier noir pour composer les gammes sonores de tout le langage universel. Au fin fond de l'hiver, je reviendrai de mon voyage et je porterai le manteau confectionné pour cette occasion de draps feutrés dessalés avec des mains gantées de couleurs vertes vagabondant et cheminant tout autour du sommet de mon architecture vertébrale tout au long de mes épaules pour célébrer l'allégorie de chaque langue des saisons et viendrai se peindre en saignées des traînées dessalées de couleurs vertes faisant poindre ça et là les fleurs réjouies de la nativité. Puis je viendrai me perdre dans l'épaisseur de la forêt en exauçant le verbe incarné et je demanderai aux innombrables gants de couleurs vertes autour de mes épaules d'écrire le premier mot de la plume de mon encrier noir sur les écorces des arbres au son de la forêt de l'écriture vivante. Je suis un peu ému, excusez-moi. C'est beau ça. Hein ?
C'est beau.
Ça va comme ça ?
Ça va. Ça vous vient comme ça, Daniel ?
Oui, à toute vitesse.
Ouais. C'est quoi cette émotion ? Enfin bon, c'est un peu particulier, mais c'est quoi cette émotion qui est tellement présente chez vous ?
Je sais pas. C'est serait-ce. C'est. D'abord, ça fait. Bientôt 4 ans, ça fait 3 semaines que je ne suis pas allé marcher, que je marche de 15 à 20 km par jour. Donc je suis proche quelque part des gens qui font de la compétition au niveau équilibre sportif. Et donc quand je marche, je suis en contact direct avec la nature, c'est un puits d'amour. J'entends des souches qui craquent, plein de choses que les gens n'entendent pas. Je dis souvent avec des amis, mais dis toi, tu vois des choses que personne ne voit, tu entends des choses que personne n'entend. Donc, peut-être que je fais partie du miracle.
Cette sensibilité à fleur de peau, pour vous, c'est une force ou c'est une fragilité ?
Je ne me pose pas la question parce que j'ai quand même beaucoup d'antécédents au niveau de certains problèmes de santé. Mmh. Et donc, je dis... aujourd'hui, j'ai dit ça hier, je crois, parce que normalement, je suis en ventre. Et c'est vrai qu'on a tendance à cultiver les ventres aujourd'hui. Et j'ai dit, toute personne qui sera sur mon chemin aujourd'hui, je le brise. Mmh. Je n'ai pas le choix. Je dois protéger ce que je fais, ce que j'entends, ce que j'écoute. C'est peut-être de la névrose.
Moi, j'ai tendance à penser que l'extrême émotivité et sensibilité... Et plutôt une force, c'est que tous les grands artistes sont quand même.
Je suis d'accord aujourd'hui avec vous, mais le problème, c'est que on est dans une surface aujourd'hui. Elle est trop lisse. Même si on arrivait, je sais pas moi, c'est pas possible quoi. Tout est lisse dans nos sociétés. Il faut rien dire, pas de bruit, pas de choses, pas de. On ne sait pas qu'est-ce que c'est, quoi.
Mais c'est vrai que l'hyper-émotivité ou l'hyper-sensibilité, c'est quelque chose qui peut gêner. Aujourd'hui, on entend souvent.
C'est pour
qu'il
ça
faut
que
pas
je...
non plus.
Oui, hein. je sais que je suis quelqu'un. J'ai la conscience d'être dangereux parce que c'est la première émission de radio que je fais, mais j'ai cette conscience-là. Hein. Mais
dangereux ou dérangeant?
Je dirais dérangeant, c'est mieux.
C'est dangereux, c'est un côté négatif. Alors, dérangeant, oui, parce que les gens, c'est exactement ce que vous disiez. C'est-à-dire, on attend que les gens soient lisses.
Mais vous avez vu, ne serait-ce que tout ce qu'on fait, même ne serait-ce qu'un industriel, à tous les niveaux, tout est lisse. Moi, je suis lassé de tout ça, j'en peux plus. C'est pas une forme d'académique que je fais, mais je pense que quand même, au niveau de mon travail de la peinture et de ce que j'écris, je tisse des liens qui sont importants, quoi.
Et vous aimeriez, par exemple, être plus, pour les peintures, faire des expositions plus souvent ou être plus vu?
Mais j'ai fait des expositions en continu à la cathédrale pendant 4 ans. Le principe de la galerie, le principe, je dis, mais ne m'intéresse pas. Je sais qu'il faut la vendre, il faut vendre.
Bah, bien sûr.
Mais.
Ou si ce n'est vendre, Daniel, au moins montrer.
Oui, c'est sûr, mais j'ai quand même tenu ma boutique pendant 10 ans où tous les jours les clients venaient. On mangeait des tartes que j'avais faites, on buvait un café, on parlait de la peinture, ça a duré des heures. Les clients qui restent plus de 2 heures à la boutique, c'est pas possible, quoi. Il faut pas le faire vite. C'est ce rapport à la consommation qui me gêne, quoi. C'est ça, ça me gêne. On peut pas ouvrir son porte-monnaie, essayer un vêtement et repartir, c'est pas possible pour moi.
C'est des complexités, c'est vrai. Aujourd'hui, de la vie, c'est pas facile. Daniel, on va écouter un musicien que vous m'avez fait découvrir, que je ne connaissais pas du tout, qui s'appelle Max Richter. Comment vous l'avez découvert vous-même, ce Max Richter?
Par intuition.
Ouais. C'est encore l'extrême sensibilité. Et vous avez choisi pour nous le morceau numéro 9 dans la playlist et qui s'appelle Dream 3, ou Dream 3, je ne sais pas si c'est...
Voilà. C'est ça, oui. Ouais.
Et puis, je vous disais qu'en préparant l'émission, j'avais écouté la suite et que franchement, j'encourage beaucoup les auditeurs à découvrir cet artiste. Il y a notamment des morceaux piano-violon qui sont d'une... alors là, on est dans l'émotion pure, hein, Daniel aussi. On écoute et puis on se retrouve.
Mais en fait, moi, j'ai besoin des deux. J'ai besoin de Maria Callas et j'ai besoin de gens comme ça. Moi, je suis assez éclectique dans mon travail, dans l'écoute de mon travail.
On écoute Max Richter, qu'on écoutera un bout parce que le morceau est très long. Et je remercie au passage Yanis qui nous fait la technique aujourd'hui. Merci Yanis. Thank you. être comment la musique de Max Richter, mais si on peut la garder en fond, ça serait sympa, voilà, pour l'écouter, pour finir notre discussion. Voilà, c'est tout à fait quelque chose qui peut être en musique de fond et c'est très très agréable. Daniel Maigron, toujours sur Radio FM Plus dans Aéropage. On a le temps de lire un autre texte, si vous voulez.
Oui, bien sûr, mais j'espère que je ne serai pas aussi ému que le premier.
Non, allez-y.
Parce que je ne sais pas s'il a été compréhensible à la fin.
Allez-y.
Ah, ça a passé, où est-ce que c'est ça ?
Comme ça, on écoute Max Richter en attendant. Un violoncelle magnifique.
Au pied du mur, à l'endroit de 1000 flaques panées et au milieu de 1000 dessins travaillés comme un modèle à l'encre noire du marbre de toute vie, de ces 1000 découvertes tirées à 1000 exemplaires au-delà de l'encre noire en récitation de la tragédie du monde, au-delà de 1000 histoires exilées, de tout périmètre des frontières racontant les 1000 poèmes des lieux sacrés du temps, par-dessus 1000 paroles au défi de 1000 phrases commentées sans cabriole au courant de 1000 mots, au défi de 1000 exercices des sourires de toutes les lèvres, de toutes les phrases confondues contextuellement, nous emporte au courant de 1000 savoirs de l'existence du vocabulaire. Au-delà de la majuscule qui propose d'entamer la phrase aux mille ponts de 1000 mots du contexte de l'actualité de la vie. Au-delà de 1000 rêves aujourd'hui, peut-être demain couché, de 1000 ans de mots, au-delà de 1000 rêves aujourd'hui debout, peut-être demain couché de 1000 ans de mots, de sommeil de mots.
Voilà. Merci beaucoup Daniel Maigron. Merci.
Je suis trop ému là.
Oui, bah c'est difficile, hein, c'est un exercice difficile. Daniel, j'aimerais quand même raconter comment on s'est rencontrés.
Et oui.
Parce que j'ai une relation amicale avec Christophe Lahendès, donc le président de Nombre 7, qui est une maison d'édition basée à Nîmes. Et puis, bon, on s'écrit régulièrement. Il me dit, écoute, Nat, il faut que tu rencontres cet ovni, quoi. Voilà.
J'espère que je ferai venir, mais pas un gélule.
Non, c'est pas Soleil Vert, vous inquiétez pas.
Un gélule du plaisir.
C'est pas ça. Non, il l'a dit très tendrement et avec beaucoup d'affection. Il dit, franchement, arrête-toi, quoi, parce que... voilà. Et donc, vous m'avez envoyé des textes, après vous m'avez envoyé votre livre. C'est important, comme ça, d'avoir des gens qui vous soutiennent, quand même.
C'est primordial. Mm. Ça s'appelle, comment dire, le socle de la démocratie, c'est l'échange. C'est le socle.
Et comment vous l'avez rencontré, Christophe ?
Par hasard, parce que tout le monde me disait, tu devrais te téléphoner à une maison d'édition, tu devrais appeler, tout ça. J'ai contacté plein de maisons d'édition, et puis ça c'est pas, j'ai pas eu tout. Et puis un soir, à 10h du soir, il m'a appelé. Et puis l'échange s'est fait très très bien, et il est passé chez moi. Il a vu mon travail. Mmh. Voilà.
Il y a un vrai coup de foudre pour la peinture aussi chez lui. Hein. Il aime beaucoup ce que vous faites. En peinture et avec toutes ces matières différentes. Le dessin qui est en couverture de Nomade est assez étrange.
Ah ça, je l'adore. C'est du papier collé.
Ouais. Ça aussi, vous faites ?
Rien de temps, ça.
Ouais. C'est quoi un rien de temps ?
C'est quand je suis inspiré.
Ah. Quand vous êtes inspiré, vous y allez, quoi.
Je sais pas, je me pose jamais de questions.
C'est comme quand vous êtes inspiré, la plume, elle glisse.
Le seul élément perturbateur, pour moi, c'est quelque part les autres. Mais quand je suis là, je suis tout seul avec moi-même et je respire vraiment.
J'aimerais que vous nous parliez aussi de votre jolie signature.
Elle date, celle-là. Hein.
Elle est très belle. On dit ce que c'est ?
C'est à Paris que je l'ai créée, celle-là.
Alors, quand on ne sait pas, on dirait que c'est écrit 881.
Oui, en plus de ça, au niveau de la Chine, c'est vrai que c'est un chiffre porte-bonheur, 881. Donc, je vais vous dire que, par exemple, les Hongkongais, ils sont très friands d'une plaque numérologique portant ce chiffre-là. Et ça coûte une fortune, parce que c'est très limité, quoi.
D'accord.
Et c'est vrai que j'ai eu beaucoup de succès avec ça.
C'est vrai que c'est une calligraphie, votre signature.
Aussi, hein. Oui.
C'est une marque. C'est important, comme ça, d'avoir aussi une image sur la signature, d'être identifié.
Mais je préfère avoir une signature que non.
Oui, c'est vrai.
J'aime bien ma signature, mais je n'ai pas besoin de mettre mon nom à côté.
Et vous aimez votre nom ?
C'est ma famille.
C'est votre famille ?
On apprend tout de sa famille.
On a encore, si vous voulez, un texte. On a vraiment encore le temps d'un texte.
Ça,
c'est superbe.
Je J'espère que je... Parce que là, je vais commencer à bégayer, moi.
Ah bah non. C'est pas moi. Sinon, je peux lire un texte de votre
livre.
Je
pense que c'est mieux, oui. C'est pour ça que je voulais pas être discourtois.
Allez, on va en choisir un dans le...
Non, attendez, je veux... Ah,
allez-y. Moi, j'aimais beaucoup celui-là, quand même, hein, si j'ai le droit. Je voudrais planter un arbre dans la mer.
Ah, celui-là est magnifique.
Hein, alors, je lis celui-là, Daniel.
Ah oui, celui-là est magnifique.
Je voudrais planter un arbre dans la mer et avoir pour toute fleur des aquariums. Le sang, la cendre et le sel. J'insisterai à vouloir publier les bancs pour célébrer l'union au diapason des murmures silencieux de la ligne d'horizon, rencontrant les lames et faisant raconter aux vagues chaque dynastie de chaque branche. Le sang, la cendre et le sel. Au pied de l'arbre, je planterai des anémones qui chanteraient au plus profond des abysses de notre terre mère-océane et fredonneront l'épopée marine en allant rejoindre les eaux de notre Isha de l'être. Le sang, la cendre et le sel. D'un bout à l'autre d'une date, d'un bout à l'autre d'une époque, d'un bout à l'autre de l'horizon, nous égrénerons nos branches pour savoir si les perles de fleurs que nous portons sont aussi lourdes que le poids des années d'une vie. Le sang, la cendre et le sel, faisant écho glacial de la vie des profondeurs de la mer, les racines aquatiques des fleurs mêlées à celles de l'arbre s'uniront dans une faconde intérissable. Le sang, la cendre et le sel.
Merci Nathalie. C'est admirablement dit. J'ai beaucoup d'émotions, j'ai failli pleurer, mais je me retiens.
C'est un très beau texte et ça m'a fait très très plaisir de le lire. Daniel, on va se quitter.
Oui, merci. Hein, en tout cas, c'est ma première émission radio et je vous remercie infiniment parce que je suis vraiment ému.
Eh ben c'est très bien. J'espère que nos auditeurs ressentiront cette émotion. Donc, je vous rappelle que je recevais donc Daniel Mingron pour cet auteur autour de Nomade, donc aux éditions Nombre 7, disponible quand vous êtes de passage à Nîmes, boulevard Victor Hugo, à la librairie Les Lettres de Montmoulin, et sinon, bien sûr, disponible sur le site d'Horizon Nombre 7. Et puis, si vous ne trouvez pas, vous nous écrivez, on vous donnera là le lien pour acheter le livre. Merci beaucoup, Daniel.
Merci beaucoup, en tout cas, à toute l'équipe aussi. Hein.
Merci, Yanis. Merci. À très bientôt dans Aréopage.
L'Aréopage, l'émission littéraire de Nathalie Bouly pour FM+.